hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Manuel de Oliveira, présenté par Jacques Parsi. Jacques Parsi, vous êtes historien du cinéma, au départ professeur de français à la faculté de Braga. C'est là que vous avez commencé à découvrir le cinéma de Manuel de Oliveira et à travailler avec lui depuis 1978. Amour de perdition. Tout à l'heure, nous allons réécouter l'entretien que j'avais eu la chance de faire le 12 mai 2011, au moment où Manuel de Oliveira était à Paris pour un de ses films. Mais si nous rediffusons cette émission, c'est parce que sur les écrans partout en France est sorti récemment un film de Manuel de Oliveira intitulé « Visite ou mémoire au pluriel et confession au pluriel ». Et un film, outre qu'il est bouleversant et très important pour l'histoire du cinéma européen, c'est un film qui, je crois, n'a pas d'autre exemple dans l'histoire de la cinématographie européenne. Jamais, je crois, un cinéaste n'a décidé, comme l'a fait Manuel de Oliveira, je crois, en 72...
En 81,
de faire un film, de se filmer lui-même dans ce film, et de ne pas le diffuser, et de garder ce film comme un secret, en couchant sur son testament une clause précisant que après sa mort, eh bien oui, on pourra diffuser à ce moment-là le film. Donc Manuel de Oliveira est mort et nous découvrons ce film de 82.
Voilà, exactement. En 72, ça n'aurait pas été possible dans la mesure où on était encore sous Salazar et que Manuel de Oliveira était très mal aimé du régime. Il n'aurait jamais pu faire ce film avec cette condition, cette clause, de ne pas diffuser le film, sinon après sa mort. Ça n'a été possible qu'après la Révolution, et ça n'a été possible d'une certaine façon qu'au Portugal, dans la mesure où il n'y a pas de producteur indépendant, individuel. Quel est le producteur qui accepterait de produire un film qui ne serait rentable ou visible que 30 ans plus tard ? Au Portugal, comme le pays physiquement est relativement petit, et que le public potentiel est trop réduit pour qu'un film soit rentable, eh bien, c'est automatiquement l'État qui intervient dans la production. Et Oliveira a pu demander au ministre de la Culture, justement, parce qu'il venait d'être très bien accueilli en France pour Amour de perdition et Francisca, qui venait d'être présenté au Festival de Cannes de 81, de pouvoir avoir une petite subvention. Le film est très modeste, il n'y a pas d'acteur, il n'y a qu'une équipe très très réduite, il n'y a pas de décor. Donc il a pu demander la production d'un film qui ne serait visible qu'après sa mort. Oliveira avait 73 ans à l'époque. Personne n'imaginait qu'il mourrait à 106 ans.
Alors, outre l'histoire très romanesque de ce film qui nous parvient seulement aujourd'hui, eh bien il y a quelque chose d'absolument remarquable dans ce film. D'abord, c'est très émouvant de voir Manuel de Oliveira lui-même à l'écran en train de raconter son histoire familiale qui est aussi toute l'histoire du Portugal pendant plusieurs générations. Et puis, il y a une sorte d'éloge de la beauté, de la sensualité. Il y a une leçon de cinéma à travers le déroulement de ses plans. Il y a un éloge de l'amour, l'amour qu'il a éprouvé durant toute sa vie pour sa femme. Il y a un éloge du cinéma comme art d'une équipe, comme travail collectif. Et il y a aussi cette espèce d'autoportrait de Manuel de Oliveira qui n'était pas du tout destiné à faire du cinéma et qui a été obligé de se désentraver de son milieu familial et professionnel pour pouvoir assouvir son art cinématographique.
Oui, alors vous avez tout à fait raison. Sur tous ces plans-là, justement, c'est ce qui fourmille dans le film et ce qui lui donne sa richesse, qui fait qu'il est souvent assez insaisissable parce que plusieurs fils s'entrecroisent constamment. Oliveira a eu envie de faire du cinéma très tôt, en fait, mais au début comme acteur. Il rêvait presque de concurrencer Rudolph Valentino, puisqu'il s'était trouvé un pseudonyme d'acteur qui était Rudy Oliver à l'époque. Mais très vite, il a découvert qu'il n'était pas bon acteur. Mais en même temps, il était passionné par les films et cette anecdote m'avait beaucoup frappé. À l'époque, il devait avoir 18-20 ans, qu'est sorti L'Aurore de Murnau. Pour bien comprendre la magie de ce film et comment il était fait, il allait voir le film. Chez lui, il transcrivait le découpage plan par plan. Il retournait voir le film pour vérifier s'il ne s'était pas trompé, ainsi de suite. Il voulait vraiment arriver à cerner ce mystère de la fabrication d'un film. Et très tôt, à partir de 20 ans, son père lui a offert, alors qu'il était un jeune homme de la bonne société, plutôt destiné à une vie dorée de chef d'industrie, lui a offert une caméra et Oliveira est parti vraiment loin de son milieu, sur les bords du fleuve de Porto, le Douro, filmer les travailleurs les plus misérables, la dureté du travail même, les femmes qui marchent pieds nus, qui déchargent du charbon, qui vendent la morue et tous les poissons. Vraiment, le travail le plus dur. Il s'est tout de suite penché sur ce monde-là, en tournant le dos à ce qui aurait pu, justement, à toutes les sirènes qu'il appelait. Notamment, il était coureur automobile, il était champion du Portugal de soie la perche, il était aviateur, enfin vraiment, il avait une vie qui ne ressemble pas du tout à son premier film.
Eh bien, nous allons réécouter la voix de Manuel de Oliveira. Donc, c'est un entretien qui a été enregistré le 12 mai 2011, pour essayer de vous donner envie d'aller voir et de découvrir le nouveau film posthume de Manuel de Oliveira, Visite ou mémoire et confession. Merci Jacques Parsi.
Merci.
Le ministre de la Culture, Dr. Lucas Pires, et l'Institut Portugais de Cinéma concederam um subsídio em 1981 para este filme, que se chama Visita, ou Memórias e Confissões. Os diálogos da visita foram criados pelo grande escritor Agostina Bessa Luís, que teve a generosidade de os dedicar à minha mulher, Maria Isabel, e a mim, Manuel de Oliveira. A produção foi feita em concordância com cineastas associados, cooperativa a que pertenço. É um filme de Manuel de Oliveira sobre Manuel de Oliveira, a propósito de uma casa. É um filme meu sobre mim próprio. Talvez não devesse fazer um filme assim, mas está feito. O diretor de produção foi o Manuel Guanilho e o de fotografia, o Elcio Roque. A banda musical está preenchida com trechos do concerto número 4, para piano, de Beethoven. O som é do Joaquim Pinto e do Vasco Pimentel. As vozes são da Teresa Madruga e do Diogo Dória. As misturas foram feitas por Jean-Paul Loublier. A anotação da Júlia Buizel e a Ana Luísa ajudou-me na montagem. Foi assistente de produção o José Manuel e a decoração foi feita pela Maria Isabel e pelo Manuel Casimiro. O Alexandre Santos, o Emílio Castro e o Mário de Oliveira foram os assistentes da imagem. Dedico este filme à Maria Isabel, minha mulher.
On y va alors ? On va parler des anges.
Vous savez que je n'étais jamais au ciel, ni même en rêve, au ciel. Quelquefois, à l'enfer.
En ah rêve, bon ? C'est rêve, comment l'enfer, rêve. Manuel de Oliveira ?
C'est chaud.
Ah oui, c'est chaud, on brûle.
C'est chaud. C'est bon pour les frites. C'est bon.
Et vous préférez l'enfer au paradis ?
Je ne sais pas. Comme je ne connais ni un ni autre, et je connais quand même ce qui se passe ici, je préfère continuer ici. Un peu. Encore un peu.
Ben oui, vous êtes un jeune homme.
Oui. Je suis né dans la monarchie portugaise. Et après...
En quelle année? 1908. Ah, oh, vous 1908. Êtes un très jeune homme, alors.
La monarchie et la République se fait 2 ans après. Parce qu'il savait que j'ai aîné. Et il faut déplacer le roi.
Et vous êtes devenu le roi du cinéma portugais.
Le roi, je crois vraiment que dans le cinéma, il n'y a pas de roi. Il y avait un grand écrivain, poète, romanciste, des essais, philosophie et tout ça, qui s'appelle José Régio. Et il disait que la vraie originalité de chaque réalisateur, c'est son sentiment. C'est joli, ça. Alors, c'est pour ça que je n'aime pas faire de concours compétitifs. Si on change de jury, on change d'opinion. Et il ne faut pas. Des prix, enfin, sont stimulants, qui donnent des prix. Mais sans être en compétition. Parce que la compétition à l'athlétisme, par exemple, 100 mètres... Il y a un qui arrive en premier, c'est clair, c'est net.
Et vous parlez de ce que vous connaissez bien, Manuel de Oliveira, puisque vous avez été un très grand sportif, particulièrement en athlétisme, en saut à la perche.
Non, il y a d'autres beaucoup plus hauts que moi. Je ne pratique pas l'athlétisme pour avoir des muscles. Non, c'est pour la bonne santé. L'athlétisme, c'est magnifique, mais pas en compétition. Il y a quelqu'un qui prend des drogues pour arriver en premier. Voilà.
Mais c'est parce que vous étiez un bon athlète que vous avez commencé dans le monde du cinéma, en faisant l'acteur au départ.
Oui, parce qu'il trouvait que j'avais une bonne figure. C'est tout. Et je fais ce que je peux.
Mais vous étiez un dandy. Vous l'êtes toujours, d'ailleurs. Merci un bel beaucoup. Homme, vous l'êtes toujours.
Merci beaucoup. Mais vous êtes une très belle femme.
Merci beaucoup.
Pas de quoi.
Mais alors, ce qui est
c'est juste.
Ce qui est très étrange dans votre itinéraire, Manuel de Oliveira. D'abord, Manuel, prononce votre prénom. C'est Manoël ou Manuel?
Vous savez que Manuel vient de la... de la tradition juive. Mais au temps où je nais, Manuel s'écrivait avec O, pas avec U. En France, on me traite comme Monsieur d'Oliveira. En Italie, on me traite de Maître Oliveira. Et au Portugal, il m'a dit, hola Manel, c'est plus intime, c'est oh Manel.
Donc vous êtes peut-être d'origine juive, d'autant que votre nom, Oliveira, c'était un nom qui a peut-être été pris par vos ancêtres.
Je ne sais pas, peut-être, mais Jésus-Christ était juif aussi.
C'est plutôt la Vierge qui vous intéresse.
La Vierge, c'est respectable. Elle doit être très, très respectable pour toutes les femmes. Parce que, comme dit Agustina Bessa Luiz, l'écrivain, le bon Dieu, un être du ventre d'une femme. Ça, c'est respectable.
Oui, mais sans avoir fait l'amour, quand même.
Sans l'amour?
Bah oui.
Oui. Vous savez que la nature a donné la faim à l'homme pour manger. Il a donné le désir à l'homme et la femme pour donner la continuité de l'espèce. Il ne faut pas donner la continuité d'un dieu. Il ne faut pas donner le désir pour naître un dieu.
Alors vous venez de prononcer le nom d'une femme que vous aimez beaucoup, qui est trop peu connue en France, qui s'appelle Augustina Bessa-Louis, avec qui vous avez beaucoup travaillé. Nous oui. vous proposons d'écouter sa voix.
La première photo que j'ai vue, où j'ai vu Manuel Oliveira, c'est la photo de son mariage. Il était lumineux avec son frac. Et je demandais qui était ce monsieur. Il me disait que c'est enfin le mari de cette cousine, qui c'était ma grande amie. Et Manuel Oliveira un jour a décidé, cette cousine s'appelait Maria Antonia. Et elle est morte très tragiquement, un an après son mariage. Et ça a touché tellement Manuel Oliveira qu'il a fait un scénario à propos de cette vie tragique et qui n'est pas, enfin, c'est un film qui n'est pas tourné. Mais je le connais après, mais beaucoup des années après, parce que nous avions des amis communs. C'est une relation très heureuse et très bien réussie. Quelquefois, il s'inspire de mes livres et il prend toute la liberté pour faire ses scénarios. Et il y a une certaine, un goût, évidemment, littéraire à Manuel Oliveira. Il aime beaucoup les dialogues inspirés de mes dialogues et surtout des dialogues des écrivains. Et qu'il ajoute souvent à ce scénario. Mais au fond, il dit souvent qu'il voudrait être écrivain. Il est une espèce d'écrivain des images. Non? Et depuis ma petite enfance, j'ai commencé justement à lire, à savoir lire, à 4 ans. Et comme mon père avait un cinéma, j'étais parallèle à cette instruction littéraire. J'avais une instruction du cinéma. Je peux dire que depuis des années, comme j'ai commencé à lire, j'ai commencé à lire aussi à l'écran. C'était pour moi une fenêtre ouverte et que facilitait ma curiosité pour le monde, non? Et cet amour du cinéma m'a accompagné toute la vie et ça a, d'une certaine façon, animé cette relation avec Manuel Oliveira.
Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il a demandé à une femme d'écrire Madame Bovary, parce que tous les films qui étaient faits d'après Madame Bovary, c'était des hommes, Jean Renoir, c'était Vincente Minnelli, c'était Claude Chabrol.
Ah, oui.
Tandis que Manuel, étant un homme, il a eu besoin du transfert par la femme pour raconter une nouvelle fois cette histoire d'Emma Bovary.
Ah oui, mais j'ai fait une Madame Bovary portugaise, mais je pense que c'est une affaire de femme d'écrire Madame Bovary, au fond. Parce que Flaubert, évidemment, c'était un génie. Il pouvait se hasarder à faire le portrait d'une femme. Il a très bien fait. Il a donné très bien les nuits de Provence qui provoquent cette exaspération qui n'est pas amoureuse, qui est au fond aussi de succès, de peur de la vieillesse, de voir passer le temps et que rien ne se passe, non? Et ça, c'est vraiment la femme de Provence. Et j'ai essayé de faire le même avec, évidemment, avec un certain décalage, parce que le temps est différent. J'aurais une femme qui se promène à cheval, c'est différent d'une femme qui se promène en voiture. C'est complètement différent.
très joli, ça, merci beaucoup. Je ne connais pas.
C'est un entretien avec Michel Simon. Et Augustina dit de vous que vous travaillez à la fois en toute complicité, mais aussi avec de l'hostilité.
Oui.
Pourquoi ?
L'hostilité. Parce que j'ai fait un film sur Bovary, en France.
Donc ce film, à l'Abraham, s'intitule « Val Abraham ».
Et le producteur dit « Oui, ça, c'est en France, c'est trop cher. Il y a des autres qui font déjà. » Et j'ai retourné à Porto et j'ai dit ça à Christine. Est-ce que vous voulez faire une Bovary portugaise dans la Provence portugaise? Ah oui, 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 oui. Vous ferez votre roman à votre volonté, à votre inspiration totale. Et après, je ferai mon film. Et je respecte complètement le roman. Je me sers de ses paroles. Mais la différence, c'est qu'elle n'a arrivé jamais vraiment à bien compris. C'est qu'un film ne sait pas le roman où s'inspire. Le roman, c'est le modèle. Le film, c'est le portrait. Et le modèle peut servir pour différents réalisateurs, comme pour différents peintres. Mais le modèle s'est reproduit en tableau, en différents tableaux de différents peintres. Ils sont correspondants exactement au modèle, mais ne sont pas le modèle.
Disparate. Vou-me casar e nem sequer gosto dele.
Oh, menina, mas que despropósito. Lembra-se de dizer cada coisa? Valha-nos Deus, valha-nos Nossa Senhora.
Marina distraiu-a com as perguntas que lhe fazia e depois Branca veio ajudá-la a vestir, trazendo a costureira Judite como se fosse uma portadora de ofertas.
Isso, uma coisa azul para me dar sorte. Outra coisa azul para dar sorte, não quero mais.
É que os sapatos azuis que uma menina queria.
Azul, muito azul para dar sorte.
Carlos fez questão em que a cerimónia da igreja se realizasse na capelinha de Val Abraham. E Paulino Cardiano aceitou com a condição de que a boda fosse em sua casa, no Romesal.
De parentes e amigos, a fim de vos receber dos...
Ce qui est frappant, Manuel de Oliveira, quand on revoit Val Abraham, Le Miroir Magique, Francisca, Amour de Perdition et bien d'autres, et on va parler du dernier tout à l'heure, c'est à quel point vous arrivez à décrire de l'intérieur les émotions des destins féminins. Est-ce que vous avez une part féminine qui a été très développée pendant votre enfance pour comprendre à ce point l'âme féminine ?
L'âme féminine.
Oui.
Et le corps féminin.
Et le corps féminin aussi.
Il a intéressé toujours à l'homme. Parce que le bon Dieu y a donné le désir de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme pour garantir la continuité de l'espèce. Ce n'est pas le cas de Marie, mère de Christ, ce n'est pas la même chose. Et voilà. Chacun fait ce qu'il peut, c'est tout. Il ne peut pas aller ou arriver à l'absolu.
Mais les femmes tendent vers l'absolu, les hommes un peu moins dans votre cinéma, Manuel de Oliveira.
La femme, c'est comme une représentation de la terre. Et l'homme, c'est la représentation de la semence. Alors, l'importance de la femme, c'est extraordinaire. Parce qu'elle reçoit la semence, elle a 9 mois pour grandir l'enfant, elle donne l'enfant à la lumière, elle le protège, elle l'éduque. Et à cause de ça, je pense que ça devrait, pour la première classe d'enseignement dans les écoles, doit être dirigé, quand même bien choisi, des femmes. Parce que les femmes ont en soi-même la qualité d'enseigner l'humanité et l'amour pour son fils et l'amour pour l'homme, enfin, pour l'humanité. Il y a des politiques qui voulaient arriver à cette utopie, mais qui n'arrivent jamais. Parce que il y a des intérêts, il y a même des conditions humaines, la haine, la vengeance, de l'autre côté l'amour, la protection, tout ça, que ça vraiment appartient à les femmes, et l'autre appartient à l'homme, à la lutte et à la défense, et c'est la conquête du pouvoir qui sert à rien.
Ali, ao lado, havia um pontão de tábuas onde a água batia com um rumor sinistro. Duas dessas tábuas estavam já podres e poderiam causar um acidente a quem fosse desprevenido. Emma foi desde logo avisada. Dizia-se que a Bandi fora ao Vesúvio, assim como Caruso fora a Manaus. Emma ouvia contar a Osório essas coisas e caía num cismar respeitoso, lembrando-se do seu saudoso Rumesal. Ela não ignorava o desprezo que Osório tinha, como cavalheiro europeu, por quem não guardava as distâncias.
E por falarmos em teatro lírico, já que tenho a honra de estar ao lado de um virtuoso de renome do bel canto, eu digo-lhe com tristeza, vivemos uma época em que tudo é absorvido na vulgaridade. Já não há lirismo.
É nós.
Quem são estes dois convidados? O mais forte é o Baltazar, um cantor de ópera que o Osório fez vir para impressionar Emma. O outro é Pedro Docem, amigo de Osório e que se diz parente de Santo António de Lisboa, baseado no cronista paduano Giudiello Mongarello, que em 1441 referiu Dozon como sendo o seu nome de família.
Achas que acabou o teatro de ópera?
Mas não, de maneira nenhuma. O que eu quero dizer, Fernando, é que vivemos numa época que tudo absorve. O amor, vejamos, o amor... Já não há amor lírico. Os prazeres da hipocrisia superam os do leito.
Acha que sim?
Querida Emma, minha senhora, já não há sequer sensibilidade para um ciclo histórico que se fecha como a Batalha de Alcácer-Quibir, ou o Cerco de Leningrado, ou Waterloo e Trafalgar.
Depuis 79, j'ai compté, vous avez fait 26 films. Et plus vous avancez en âge, plus vous filmez,
oui.
Très souvent, et maintenant c'est à raison d'un film par an, comme si cette entrée dans l'âge était une sorte d'allègement et un désir, oui. De plus en plus.
Mais un film par an, c'est très peu.
Un film par an, c'est très peu.
Oui.
D'accord.
Oui, parce que je ne sais pas quelle est la date de ma finale, de la fin de ma vie. Mais je sais que j'ai volonté de laisser différents films. Je voulais faire La Garde de Nuit, qui c'est le dernier livre sur le grand peintre hollandais.
Rembrandt.
De Rembrandt, de Agustina. J'aimais bien de faire ce film en hommage à Agustina Pessalvis.
Donc vous avez déjà beaucoup de films en préparation dans votre tête.
Oui, beaucoup.
Donc oui. 2 à 3 films par an, ça vous irait bien, à 103 ans.
Non.
Plus encore.
Plus. Je me fatigue maintenant plus rapidement qu'avant. C'est naturel. Déjà, il y a tous les assistants, tout ça. Il ne faut pas que je me lève de mon assiette.
Vous restiez assis pendant le tournage.
Oui, pendant le tournage.
Oui, mais n'empêche que vous signez tout.
Les acteurs, l'assistant, ils travaillent beaucoup. Et le
mais
public,
l'idée, c'est vous à chaque fois.
L'idée, c'est que c'est vous. Je me rappelle beaucoup de la cathédrale. La grande cathédrale où l'idée n'est pas des pedreiros qui préparent la pierre.
Les ouvriers qui faisaient les grandes cathédrales, oui.
Oui, on parle de le maître. On parle jamais des ouvriers. Mais sans les pierres de ces gens, les cathédrales n'existaient pas.
Oui, mais
le cinéma,
films...
c'est un peu la même chose.
Oui.
Il y a une très forte équipe qui est obscur, qui travaille, et sans elle, on ne peut pas faire. J'ai fait 5 films, seul, tout. Après Angélique, que c'est fait parce que Marie-Antonia, c'est la cousine de ma femme, elle avait un enfant, tout de suite, après le mariage, et elle est morte. Et m'ont téléphoné, en 20 minutes nous sommes dans la maison, et quand j'arrivais, je vois descendre sa sœur, c'était une religieuse. Et elle me prie, Manuel, ma mère, elle voulait que vous tiriez une photo de Marie-Antonia. Et j'ai resté un peu inquiète, parce que j'ai fait beaucoup de photos, mais jamais photographié une mort. Et quand je vais filmer, tirer la photo, pour faire le foco, il faut bouger avec un appareil qui fait doubler l'image, plus faible qui sort. Et ça me rappelle que c'est l'âme qui sort du corps. Et c'est cette idée qui m'a séduit plus tard de faire le film.
C'est incroyable, Manuel de Oliveira, ce que vous racontez, parce que ce que vous racontez de cette histoire tragique familiale, c'est exactement le début de votre film « L'étrange affaire Angélica », puisque le film commence quand un jeune photographe arrive...
Après la guerre.
Après la guerre.
Les actes. Isaac, c'est
donc ça fait très longtemps que vous aviez l'idée de ce film dans la tête.
Oui, j'aimais l'idée du film et je le fais en adaptant à la situation actuelle.
Alors ce qui est incroyable, c'est que chez vous, et pas seulement dans L'étrange affaire Angélica, mais dans tous vos films, mais encore plus dans ce dernier, Manuel de Oliveira, il y a une porosité entre le monde des morts et des vivants. Parce que ce photographe qui va venir... photographier le cercueil d'une jeune femme qui vient de mourir, quand il déclenche son appareil photo, il va voir cette jeune femme renaître et lui sourire. Et finalement, L'étrange affaire Angélica, c'est une histoire d'amour entre un vivant et une morte, mais une histoire vraie.
Oui, c'est ça. Les choses arrivent d'une petite chose. Ça suffit pour donner le ton juste pour faire un film. Je suis content de refaire le film. Quand même, j'aimais beaucoup. Et un grand écrivain, José Reggio, il voulait penser que je ne ferais jamais l'Angélique. Il m'a dit, Manuel, je vais faire Angélique, en écrivant libre sur l'idée d'Angélique, et je vous dédie ce livre. Oui, alors c'est bien. Je pensais que je ne le ferais jamais.
Donc le cinéma, c'est la résurrection des morts.
Il est mort sans faire le livre. Et finalement, j'ai fait le film. J'ai eu la chance. Voilà. Mais le cinéma a commencé avec Méliès et Max Lander, etc. Et l'invention, évidemment. Et ce qui a développé ne s'est pas le cinéma. Justement pour que la vie de l'homme n'a pas développé aussi. Ce qui a développé, c'est la technique. La technique qui va jusqu'au télémovel. Aujourd'hui, on fait des pesquises et de soi sur la cellule pour faire l'homme sans user la femme, sans user le sperme de l'homme. Ça, c'est fou. Ça, qu'est-ce que vous voulez là? Ça, c'est le désir d'être comme Dieu. Prend la place de Dieu. Retirer la place de Dieu pour se mettre lui dedans. C'est extraordinaire la ambition de l'homme.
Comment va le cinéma en ce moment, selon vous?
Selon moi, le cinéma, il était né au moment exact l'inventeur du cinéma.
Méliès?
Lumière. Et après, l'autre a fait ce qu'on dit. Les effets spéciaux sont faits déjà au début. Et Max Lander a fait le comique. Et tout est fait. Il n'y a pas d'autre. C'est tout. L'homme n'a pas changé. L'homme, comme Abel et Caïn, Abel, c'est le côté bon de l'homme et même sainte, et Caïn, c'est le côté mauvais de l'homme. Et ces deux côtés, ils sont ensemble dans l'humanité. Et ils n'ont pas changé rien. Il y a beaucoup de partis, la monarchie, la république, la démocratie, le communisme, l'anarchisme, etc., etc. Mais la condition humaine, c'est justement la même. Et c'est dans la condition humaine que repose tout le bien et tout le mal.
Mais vous qui êtes le seul cinéaste vivant à avoir connu dans le monde entier le cinéma muet, que pensez-vous de l'évolution technique et technologique du cinéma ?
C'est le cinéma muet, c'est un peu honorique. Parce que dans le sogne, comment ça dit, le rêve, on ne voit pas, on n'entend ni la voix, ni la couleur. Alors, je suis un grand amant de cinéma muet, avec beaucoup d'autres, de la littérature, du théâtre, de la peinture, mais il reste honorique. Et quand vient la couleur et le son, le cinéma gagne un réalisme total. Et quand je suis à Mexico, dans une rencontre ibéro-américaine, il y a un réalisateur, Rip Stein, vous connaissez Rip Stein, qui prend le microphone à ce moment, à un certain moment, et dit une chose admirable. C'est tout le gouvernement du monde doit aider les réalisateurs. Mais pas comme en faveur, mais comme en devoir. Parce que le cinéma, c'est le miroir de la vie. Et c'est juste. Et j'ai pensé comme moi que c'est une chose si évidente. Et personne n'avait pensé à ça jusqu'à ce moment. C'est extraordinaire.
Donc le cinéma restera éternel.
Oui, je crois. D'une façon ou l'autre, plus technique, moins technique, c'est une garantie que nous avons. Si le cinéma existait au temps des Grecs, nous pouvons voir comment il représentait vraiment. Mais il n'y a pas. Mais le cinéma, quand même, est né au moment juste. Pourquoi ? Parce que le cinéma, selon Jacques Rézio, a dit, c'est la synthèse de tous les arts. Alors, c'est la dernière des arts qui a sorti.
Merci à Jacques Parsi. Je rappelle que Jacques Parsi a publié 3 livres sur et avec Manuel de Oliveira. Le dernier s'intitule tout simplement Manuel de Oliveira. Il y a aussi Conversation avec Manuel de Oliveira. Et je rappelle que le dernier film posthume de Manuel de Oliveira s'intitule Visite ou mémoire et confession et qu'il est actuellement sur les écrans. Merci à l'équipe de Hors-Champ. Merci à Brigitte Bouvier, Guillaume Leduc, Corinne Amard, Élodie Royer, Samuel Bernard. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.